Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce que tu
dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, a annoncé la révision à la baisse du taux d'intérêt pour tout projet d'investissement pour les Congolais par les FPI. Il a affirmé que ce taux, révisé dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités, passe de 18, voire 20 à 6%, soit une variation très significative de près de 30% à la baisse. Par ailleurs, pour tout projet d'entreprise des jeunes et des femmes, le taux d'intérêt du FPI est de 4%, a souligné Julien Paluku. Certains observateurs estiment que cette décision relance les débats sur les défis majeurs à relever dans les secteurs de l'industrie en RDC. Alors comment réagissez-vous? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou encore au 09 97 06 4969 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Dienodé Nyangasa sur la mise en onde de cette émission qui bénéficie des concours techniques à la réalisation de Nico Kalambay et Piero Elameji. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir d'accueillir en ligne Monsieur le ministre Julien Paluku Kaungia qui est avec nous. Monsieur le ministre, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi que je retrouve après longtemps.
Merci beaucoup, c'est un réel plaisir de vous retrouver certainement après longtemps. Mais est-ce que il y a une motivation particulière de la prise de votre décision de revoir à la baisse le taux d'intérêt pour tout projet d'investissement pour les Congolais par les FPI?
Oui, merci beaucoup. La motivation principale, c'est de susciter l'entrepreneuriat local, parce que comme tout le monde peut l'observer, ce sont surtout les étrangers dont j'ai tel nom, tout le monde les connaît, qui viennent, qui affluent en République démocratique du Congo, et c'est là au détriment de l'entrepreneuriat local qui regorge pourtant des compétences dans tous les domaines. Nous avons des jeunes universitaires, nous avons des agronomes, des vétérinaires, des techniciens de développement, des sociologues, des économistes ruraux. Mais tout cela, effectivement, dans ces pays, ne sont là qu'avec leur farde de gel honneur pour chercher de l'emploi, etc. Alors qu'il y a des possibilités de créer de l'emploi par eux-mêmes, par des initiatives qu'ils peuvent prendre au niveau local. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'en arrivant à la tête de ces ministères, nous puissions faciliter l'accès aux crédits qui sont octroyés par les fonds de promotion de l'industrie. C'est un fonds que le gouvernement a créé pour permettre de créer des richesses qui sont tenues et détenues par des Congolais. Voilà pourquoi nous avons dit alors, pour faciliter cet accès-là et empêcher la lourdeur dans les remboursements des crédits qui sont octroyés, la première stratégie c'était de rabattre les taux jusqu'à 6% pour que cela moins sur ceux qui ont des initiatives locales, etc. Et c'est un intérêt où ces crédits sont accordés sur l'investissement. C'est-à-dire, vous avez un projet de création d'une micro-entreprise, de transformation du lait, de transformation de fruits en jus, etc. Toutes ces petites entreprises qui sont nécessaires pour la vie de la communauté doivent être tenues par des Congolais. Et spécialement, si les jeunes élaborent des bons projets, les taux est réduit jusqu'à 4%, les jeunes et les femmes. Cela permet en fait de sortir de plus en plus les jeunes dans la rue et les ramener vers le travail, les ramener vers la construction de leur avenir. Parce qu'on a souvent vu des jeunes gens souvent dans les rues, il y a des marches à gauche, à droite. Et les jeunes ont semblé croire que la vie des jeunes ne se trouve que dans la rue, alors que la vie peut se retrouver dans des activités d'élaboration de projets qu'ils peuvent eux-mêmes exécuter et ainsi contribuer à la création des richesses en République démocratique du Congo.
Est-ce qu'on peut, peut-on espérer à un impact dans les vécus quotidiens, si pas rapidement, mais dans les jours à venir, par rapport à cette décision?
Oui, ça, il y aura un impact parce que en dehors de cette décision qui est prise, il y a une seconde, celle des recouvrements de 150 millions qui sont détenus par ceux qui ont eu du retard à payer effectivement les crédits qui leur avaient été octroyés. Et l'objectif des recouvrements de ces 150 millions de dollars, c'est que nous voulons les réaffecter dans les 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous pensons que si des jeunes, des femmes, des entrepreneurs locaux élaborent au moins un projet par territoire, nous allons réinjecter 145 millions de dollars dans les 145 territoires. Et pour nous au ministère, l'objectif c'est de créer minimum 100 millionnaires en 5 ans. C'est-à-dire, vous élaborez un projet de 1 million dans votre territoire, il est validé, il respecte les normes, il est financé et vous commencez à participer vous aussi à la création d'emplois dans votre territoire, à la création de richesses dans votre territoire, et ça va vous empêcher d'aller dans la rue, aller dans des marches chaque jour, mais plutôt avoir le souci de devoir participer à l'amélioration du vécu quotidien et le souci du remboursement aussi du crédit que vous avez pris vous pousse au travail au quotidien et vous empêche de verser dans des choses que nous avons vues partout à travers la République.
Oui, c'est aussi la question des filières que choisissent ces investisseurs, parce qu'on sait que dans la plupart des cas, l'agriculture serait l'idéal comme filière pour arriver réellement à booster les développements ou encore à travailler sur la croissance économique. Est-ce que les conditions dans lesquelles pour octroyer ces crédits seront aussi orientées dans ce sens-là?
Oui, vous savez, le ministère de l'Industrie est un ministère transversal. Les financements que nous accordons, on ne les fait pas aux gens qui sont de l'industrie, non. C'est aux gens qui sont dans tous les secteurs de la vie économique. C'est-à-dire, que ça soit un projet du domaine agro-industriel, agricole, que ça soit même des projets, par exemple, de restructuration de tous ces champs de cacao, de café, de EVA que nous avons connus, pour que nous puissions désormais nous inscrire dans la culture d'exportation. Parce que qui dit exportation, dit rentrée des devises. Et là, ça va contribuer à notre balance de paiement. Donc, c'est tous ces secteurs-là qui sont concernés par le financement du fonds de promotion de l'industrie, y compris même les microcentrales hydroélectriques. Vous savez que beaucoup de gens ne pensent qu'à la grande centrale d'Inga. Inga 3, Inga 4, c'est bien beau et c'est bon de devoir penser à Inga. Mais moi, j'ai à ma possession un rapport qui a été élaboré et qui donne plus de 500 sites hydroélectriques potentiels en République démocratique du Congo. Il suffit de trouver des financements de entre 1 et 5 millions de dollars par site, chaque village sera éclairé. Donc si nous avons des ingénieurs en électricité qui peuvent élaborer des micro-projets de création de micro-barrages partout à travers la République, ils bénéficieront également des fonds de promotion de l'industrie, parce que l'électricité est un préalable à l'industrialisation du pays. Si nous avons par exemple dans une zone comme Beni, dans une zone comme l'ex-province orientale, ou comme Walikale, où on commence à produire du cacao, nous cherchons des jeunes gens qui peuvent installer des usines de fabrication du chocolat congolais. Parce que nous produisons du cacao, mais nous ne cessons d'importer le chocolat alors que le chocolat vient du cacao. Donc ce sont des petites histoires comme ça. Vous voyez par exemple, toutes les rivières à travers la République, il y a des poissons qui meurent de vieillesse alors que les enfants meurent de malnutrition. Si nous avons des jeunes gens qui peuvent chercher des bateaux industriels pour pêcher dans les lacs, pour pêcher dans les rivières, de manière à offrir ces poissons-là à la population, c'est une activité qui cadre avec notre ministère, bien que relevant du ministère de l'élevage. Donc voilà une sorte de politique globale que nous sommes en train d'adopter au ministère pour permettre effectivement que l'espoir que notre gouvernement a suscité puisse être rencontré dans les actions que nous allons faire.
Oui, alors par le passé, avant de, d'ouvrir les standards et accueillir les auditeurs, l'État congolais a initié pratiquement plusieurs politiques industrielles. Est-ce qu'on peut dire que ces diverses politiques industrielles sont vraiment appliquées, adaptées aux réalités économiques du pays du moment?
Oui, vous savez, nous sommes un gouvernement et nous avons fait passer par les billets du Premier ministre notre programme à l'Assemblée nationale. Comme vous pouvez vous en rendre compte, dans les piliers 7 du programme qui a été défendu par le Premier ministre, il parle de la diversification de l'économie et la création des conditions d'une croissance inclusive. C'est ça, effectivement, que nous, au niveau du ministère, nous nous sommes appropriés. Parce qu'en fait, lorsque nous avons défendu notre programme à l'Assemblée nationale et lorsque nous suivons le président de la République en train de présenter le programme présidentiel accéléré de réduction de la pauvreté et de lutte contre les inégalités, chaque ministère doit maintenant faire une déclinaison à son niveau pour dire le président de la République a dit ceci, le programme du gouvernement a dit ceci, qu'est-ce que moi en tant que ministre dans mon secteur je dois faire pour que je place des indicateurs qui me permettront d'ici 5 ans de m'inscrire dans la vision qui a été tracée. Et c'est donc ça le travail que nous faisons au niveau du ministère. Et d'ailleurs, ce matin, je viens de lancer officiellement les travaux de validation technique de notre document de la politique et de stratégie industrielle. Nous allons, pendant 2 jours, valider techniquement ces documents-là avant de les présenter au Conseil des ministres pour que désormais, le pays soit doté d'une politique industrielle. Et ce sera la grande première que nous soyons dotés de documents. Et ainsi, à travers la région, face au COMESA, face à la SADC, face à la CIRGL, face au monde, nous pourrions vendre notre document de politique industrielle et permettre que tous les partenaires qui veulent venir investir chez nous se basent, se focalisent et se fondent sur les composantes de cette politique industrielle. Le moment venu, nous aurons à communiquer aussi là-dessus.
Alors, avant de terminer, d'aucuns qualifient les déficits que connaît la RDC en termes d'industrialisation très forts. Ces déficits sont tellement forts que ça ne sera pas résolu à court ou à moyen terme, c'est une question de long terme. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, il y a des actions à mener à court terme, il y a des actions à mener à moyen terme, il y a des actions à mener aussi à long terme. Ce qui est important pour un homme ou pour celui qui accède à une fonction, c'est de devoir donner l'ambition. Vous savez, quand on n'a pas d'ambition, on n'a pas de travail à faire. C'est lorsque nous nous donnons une ambition que nous allons définir les voies pour y arriver. Sans ambition, il n'y a pas de travail, il y a un laxisme. Et je suis content que, en me donnant une grande ambition comme celle-là, ça va me pousser effectivement à travailler, à rechercher les voies et moyens pour atteindre cette ambition. Et je crois que les évaluations que nous ferons régulièrement permettront au peuple congolais de devoir savoir si réellement nous avons eu une ambition peut-être fallacieuse ou alors nous avons commencé à planter les décors pour que le peuple congolais commence à retrouver ses espoirs perdus depuis longtemps.
Révision du taux d'intérêt pour tout projet d'investissement pour les Congolais, c'est une question de susciter l'intérêt de l'entrepreneuriat à RDC. Comme l'a dit notre invité, le ministre Julien Paluku Kayunga, ministre de l'Industrie. Et aujourd'hui, certains observateurs estiment que cette décision relance les débats sur les défis majeurs à relever dans le secteur de l'industrie à RDC. Et qu'est-ce que vous en pensez? 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et Citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Lui, vous êtes à Kikwit. Bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour. Bonjour. à Monsieur le ministre Joseph Falloukou et à tous les auditeurs de la radio Capri.
Quel est votre commentaire?
Je voudrais dire d'abord, je demande à Monsieur le ministre Joseph Falloukou d'être au moins cette fois-ci réaliste. Que nous pouvons puissions l'impact de ce projet.
Oui, alors lui, on a des petits soucis avec votre ligne. Je crois que le temps que vous repositionnez, ça pourrait nous permettre d'avoir une communication très fluide. Parce que sinon, là, on a des difficultés à vous écouter et à comprendre de quoi vous parlez. Alors, on va d'abord prendre Dieu merci qui est à Kisangani. Dieu merci, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à nos invités qui, malgré ces multiples occupations, acceptent d'échanger avec nous d'une manière citoyenne.
Alors, est-ce que Dieu merci, vous pensez comme les autres que le déficit de l'industrialisation que connaît notre pays et qui est tellement criant, cela ne permettra pas à court, à moyen, même à long terme de pouvoir réduire sensiblement ces déficits?
Absolument, monsieur le journaliste, nous commençons d'abord à saluer à notre avis toute initiative allant dans le sens de nous soulager rapidement à l'extrême pauvreté auquel notre pays se trouve actuellement. Nous savons très bien que le secrétaire de l'honorable Julien Falloukou, actuel ministre de l'Industrie et notre invité, alors gouverneur du Nord-Kivu, était lié à sa capacité de communiquer. Mais la question que je vais poser à l'invité, est-ce que l'honorable ministre est sûr et sincère qu'avec le fameux FPI au stade actuel, serait capable vraiment de promouvoir le développement de l'industrie dans notre pays?
Et qu'est-ce que vous avez constaté, Dieu merci, dans le fonctionnement du FPI, dans son format actuel? Qu'est-ce que vous avez constaté?
Nous pensons que cette institution a vraiment un problème sérieux et c'est même en voie de disparition. Alors, ici à Kisangani, par exemple, on ne voit plus les véhicules avec mention FPI en circulation, comme dans le passé. Nous passons à notre avis qu'il serait nécessaire.
Oui, mais l'invité l'a reconnu. Oui, Dieu merci, l'invité l'a reconnu. L'invité l'a reconnu qu'avec cette lourdeur de remboursement des crédits, ça causait quand même un peu de tort au FPI. Raison pour laquelle il y a une vaste opération de recouvrement par rapport à cette question.
Ah ouais, c'est juste ça. Il devrait commencer par redynamiser le FPI ou soit identifier une autre institution pouvant accompagner la vision du président Félix, c'est celle de lutter contre la pauvreté et l'inégalité sociale. Monsieur le journaliste, c'est ça un peu mon point de vue. Nous saluons vraiment les initiatives de l'honorable.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dieu merci. Alors, Trésor Junior, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, JR. Je dis bonjour. À son excellence, monsieur le ministre Julien Falloukou, qui était hier gouverneur, aujourd'hui ministre, c'est quand même une bonne chose. Je suis optimiste. Je salue d'abord cette initiative de son excellence, monsieur le ministre. C'est une bonne chose. Nous ne pouvons pas tout refuser parce qu'il faut refuser. Non. Il y a certaines choses que nous devons saluer. Vous savez, l'utilité ou le but dans cette démarche-là, c'est quoi? C'est que les Congolais puissent se développer, qu'on puisse avoir des entrepreneurs locaux qui doivent évoluer. Donc c'est ça l'utilité dans ce secteur-là. Si hier nous avons souffert, on n'a pas connu beaucoup d'entrepreneurs locaux, c'est par rapport à cela. Mais avec cette démarche-là, cette initiative-là, ça ouvre la porte à beaucoup de Congolais de pouvoir s'épanouir. C'est une bonne chose. Mais hormis cette réduction des intérêts des pourcentages, je ne sais pas s'il y a d'autres conditions, c'est une question directe que je pose au ministre, s'il y a d'autres conditions pour que l'on puisse en fait avoir son industrie, son entreprise sur le sol congolais. Pourquoi? Parce que moi j'aurais souhaité que cette histoire-là tienne. Pourquoi? Parce que vous remarquerez qu'au sein de notre pays, on n'a pas beaucoup d'emplois. Alors si on permettait que les jeunes ou les Congolais puissent créer leurs entreprises, et que l'on puisse en quelque sorte réduire les intérêts, vous verrez qu'il y aura beaucoup d'emplois, les jeunes et les Congolais iront de l'avant, en tout cas nous serons un pays qui sera développé. C'est une bonne chose, mais j'aimerais que cela soit une chose réelle, dans quel sens que ça soit
que ça ne puisse pas être seulement le verbe. Pourquoi ? Parce que dans ces pays, nous avons eu à assister à beaucoup de choses où on nous a promis même le ciel, mais à un certain moment, on s'est rendu compte que
c'était, c'était difficile. Voilà. Donc avec notre invité tout à l'heure, on va passer également en revue les contenus même de ces documents de l'industrialisation du pays, hein, parce que qui aujourd'hui d'ailleurs, comme il a dit, il a ouvert les travaux de validation technique de ces documents de l'industrialisation de la RDC. Merci beaucoup, Trésor Junior. Bernard, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour Junior. Bonjour. À l'invité, bonjour aux auditeurs, au nom de l'ASBEL a été de nous faire tuer.
Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des défis majeurs à relever dans les secteurs de l'industrie en RDC qui doivent également faire l'objet de ces documents de l'industrialisation que propose le ministère de l'Industrie?
Oui, d'emblée, je commence par vous remercier, vous qui avez souhaité que nous puissions être en face du ministre pour qu'on essaie un peu de partager. Je crois que nous devons être sérieux lorsque nous voulons faire quelque chose. Si nous regardons très bien, notre pays souffre du manque du sérieux dans l'application des travaux. Je voulais un peu demander au ministre si vous voulez bien vérifier ce que je vais vous dire. Consultez toutes les listes que le ministre a reçues. Vous verrez. Il n'y a aucune personne qui n'a pas été parrainée par un ministre ou par une autorité pour être acceptée, pour que son dossier soit accepté. Vous verrez que cet argent est encore liquidé au profit de ceux qui sont encore en Russie, qui sont des ministres, qui ont des moyens, qui peuvent décoller d'eux-mêmes. Mais on prend encore l'argent de l'État pour suppléer à ces gens-là. Au lieu de créer des industries à ceux qui n'ont rien, qui ont des projets sans moyens pour avancer, mais cet argent profite encore à ceux qui ont l'argent et qui n'ont rien fait avec cet argent pour venir encore piller l'État. Vérifiez même les listes qui sont au SPI de la fois passée. Vous verrez, il y a des femmes, des autorités, des ministres, tout ça. C'est pour vous dire que bien beau qu'ils viennent de me parler de ça, mais ça profitera toujours à leur clan, le clan des pilleurs de la République. Et c'est là où nous demandons que d'être d'abord sérieux dans tout ce qu'ils viennent de nous dire, ou qu'ils commencent d'abord par recenser effectivement les paisibles citoyens qui sont dans les fins fonds, qui ont des projets, qui sont en train de souffrir au moment où eux sont en train de prendre de champagne dans des hôtels de luxe. Et qui veulent encore prendre cet argent des pauvres citoyens, des contribuables citoyens, pour encore s'amuser. En tout cas, nous lui demandons que de ce côté-là, qu'ils puissent revoir leur histoire.
Merci beaucoup, Bernard de Lubumbashi. Il y a même un auditeur qui nous a écrit. Il dit, dans les secteurs industriels, le ministère de l'Industrie avait créé une commission d'études nommée Nouvelle politique industrielle, avec pour but des objectifs spécifiques et des moyens et à long terme, où en est-on avec ces projets? Merci beaucoup Bernard. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Monsieur le ministre, vous avez suivi cette première série des auditeurs. Comment réagissez-vous, et surtout avec des questions directes posées par certains auditeurs sur la question de ce que la situation aujourd'hui du FPI par rapport au recouvrement, c'est vrai, vous l'avez reconnu, la lourdeur dans les remboursements, mais vos prédécesseurs ont tenté par plusieurs fois de pouvoir recouvrer et de pouvoir entrer dans les droits, mais cela n'était pas possible, et comme l'a dit d'ailleurs Bernard, sur la liste, on se rend compte que c'est pratiquement des personnalités qui ont parrainé et l'octroi de ces crédits à toutes ces personnalités.
Ah oui, j'ai bien suivi Monsieur Louis, Monsieur Dieu, merci Trésor et Bernard. Quand vous suivez un peu les Congolais, parce qu'ils traduisent ce que pensent les Congolais, effectivement, on a perdu tout l'espoir. C'est pourquoi lorsqu'on lance des idées comme celle-ci, les gens croient toujours que c'est de la démagogie, c'est comme cela que ça a été fait. Mais moi, j'ai dit quand j'ai été désigné à la tête de ce ministère qu'il faudra m'évaluer au fil du temps. De toute façon, j'ai un mandat à la tête de ce ministère j'essaierai de communiquer le plus possible pour que les gens voient exactement ce que je suis venu faire à la tête de ce ministère. Lorsque lui, par exemple, dit, mais cette fois-ci, il faut être réaliste. Je voudrais simplement dire, mais est-ce que j'ai été moins réaliste que il me le demande maintenant aujourd'hui? Je pense que je l'ai toujours été. Et ce que j'ai dit au peuple congolais à travers cette émission, c'est de dire, il faut commencer à avoir confiance à ces autorités, en ces institutions. Comme aujourd'hui, je me permets de l'annoncer publiquement, cela est un indicateur que j'annonce et que je donne au peuple pour évaluer régulièrement si réellement ce que je ferai demain cadre avec ce que je suis en train d'annoncer. Il est vrai que la société évolue par essai erreur. C'est la raison pour laquelle je vais me servir de des expériences qui n'ont pas réussi avant pour améliorer effectivement la politique que je suis en train de mettre en place aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis parfait dans la stratégie que je suis en train d'élaborer, mais je vais mettre en place des mécanismes qui me permettent d'atteindre cette ambition. Et les parrainages dont parle particulièrement Bernard, nous connaissons que ça existait. Voilà pourquoi dans notre stratégie, nous avons voulu que, au niveau de la base, il y ait des commissions provinciales, il y ait des commissions territoriales qui vont associer les ministres provinciaux en charge de l'industrie, les chefs de division de l'industrie, les chefs de bureaux urbains là où il y en a, les chefs de bureaux territoriaux, tous ces gens vont concourir à la sélection des projets, bien entendu sous le leadership du FPI, et il y aura une validation des projets à travers la République pour que ça remonte, parce qu'il y a des gens qui ne seront pas arrivés à Kinshasa au bureau national du FPI, mais il y a des bureaux à travers les provinces. Ce sont ces bureaux qui vont réceptionner les dossiers qui sont validés au niveau de chaque entité pour que ça remonte maintenant au niveau de celui qui va les financer. Et ça sera une traçabilité qui permettra effectivement que les meilleurs projets soient sélectionnés grâce à une commission de validation de ces meilleurs projets. Donc il n'est plus question ici de dire, bon, c'est le frère de tel ministre, de tel président, de tel gouverneur, de tel responsable au plus haut niveau qui va commencer à bénéficier de ces projets de financement. C'est la qualité du projet qui va dicter les choix par les FPI pour devoir financer ces projets. Et surtout, si les projets contribuent à l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc je lance cela dans l'opinion pour que les gens se mettent maintenant au travail, pour que les gens élaborent leurs projets. Nous avons des grands techniciens qui savent comment les faire. C'est maintenant à vous la parole. Comme nous sommes dans la parole aux auditeurs, c'est à vous la parole, à vous les stylos, à vous la machine. Élaborez vos projets et vous verrez réellement s'il y aura un trafic par des politiciens pour octroyer des crédits aux gens qui n'ont pas fait valider les projets par des commissions techniques qui seront instituées dans les provinces.
Alors, il y a quand même un auditeur qui a parlé, qui a dit aujourd'hui, c'est vrai, le FPI fait face à un problème sérieux de la trésorerie. Vous l'avez dit, c'est lié à la lourdeur des remboursements. Mais alors, pourquoi ne pas vous appuyer aussi à une autre entreprise pour réaliser ce projet de révision du taux? Sinon, ça sera vraiment un poids pour les FPI.
Non, lorsque j'ai fait une analyse technique du fonds de promotion de l'industrie, avant, il réalisait autour de 3 à 4 milliards de francs congolais le mois. Et je peux vous annoncer qu'aujourd'hui, le FPI est autour de 10, 12, 15 milliards de dollars le mois. Et je ne parle pas de dollars, de francs congolais. Donc, je présume qu'avec les mécanismes que nous sommes en train de mettre en place, que nous allons arriver entre 10 et 20 millions de dollars que nous produirons par les FPI chaque mois, lorsqu'on enlève les charges fixes de cette entreprise, plus les dotations aux autres structures, nous pensons avoir au minimum entre 5 et 10 millions de dollars par mois qu'on peut injecter dans les circuits de création de richesses. Et si cette ambition est rencontrée, je crois que au courant d'une année, si nous injectons 5 à 10 millions de dollars le mois sur l'ensemble de la République, ça va nous permettre d'injecter entre 60 millions et 120 millions de dollars l'an pour créer des micro-entreprises à travers la République. C'est une grande ambition, bien entendu, mais j'ai besoin du soutien de toutes les bonnes volontés, de toutes les intelligences pour accompagner cette vision que nous avons à travers le ministère et les autres pays ont réussi quand ils ont sorti des idées comme celle-là. Je sais par ailleurs que les pays comme la Chine ou le Japon, lorsque ils ont sorti des idées comme ça, au début, les gens n'y ont pas cru, mais par des petites entreprises qui ont été créées, aujourd'hui la Chine a créé 100 millions d'emplois sur une population d'à peu près 1 milliard et plus. Donc il est possible, il en est de même de l'Inde. L'Inde, par une stratégie comme celle-ci, a pu arriver à ce que le peuple congolais est en train de nier. Nous avons vécu pendant une période depuis 60 où les espoirs sont totalement perdus. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'il y a une idée qui sort, les gens croient toujours que c'est une démagogie, que nous les politiciens, etc. Cette stratégie du ministère voudrait amener les jeunes Congolais à ne plus croire qu'il n'y a que du travail en politique, mais que chacun peut construire son travail par des idées, par des projets, et être créateur d'emplois, commencer à recevoir d'autres jeunes gens avec des fardes pour dire j'ai l'honneur de demander l'emploi auprès de vous. Donc c'est ça la stratégie en fait au niveau du ministère.
On sait que le secteur informel a toujours été une pesanteur des tailles pour l'économie congolaise, et quand il faut y faire faire avec de telles initiatives, il faut compter avec les actions ou encore des solutions apportées pour cette question de l'informel. Nous allons y revenir, parce que quand vous parlez des circuits de création des richesses, 80% pratiquement de jeunes ou encore de femmes qui tiennent le secteur informel voudraient bien obtenir aussi ces crédits, mais est-ce qu'ils répondent aux conditions? Nous allons y revenir avec vous, le temps d'écouter cette deuxième série des auditeurs. Il y a Bathier qui est à Kinshasa, Ernest Amatadi. Bathier, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Radio Capi. Je dois vous saluer tous nos compatriotes du Congo profond et surtout l'honorable Julien Paluku qui est l'invité à la radio. Moi, je voulais juste dire un peu, monsieur le journaliste, parce que l'invité il revient sur le problème des démagogies. Si la population dit que les politiciens ils sont en train de nous donner des paroles démagogiques, c'est avec raison. Moi, j'étais en 2016 à Walikale, et monsieur l'invité, il était arrivé le 30 juin 2016 à Walikale pour l'inauguration de la route entre Goma et Walikale. Moi, je peux lui rappeler ce qu'il avait, il avait dit dans son meeting. Je pense qu'il a promis beaucoup de choses. Il a promis beaucoup de choses que non, on doit chercher à améliorer les conditions de la population. On va appuyer les jeunes. On va faire beaucoup de choses. Or, toutes ces promesses n'ont jamais été réalisées. C'est pour cela que la population ne parvient pas à avoir confiance aux politiciens. Moi, je pense que c'est eux qui ont fait ce que la population puisse les croire qu'ils amènent des propos démagogiques. Moi, je peux dire que moi, je suis un habitant de Goma, nous vivons à l'Est. Les réalités même de la FPI, les petits peuples, les petites populations, la population la plus petite qui crée des petites entreprises, même les universités qui finissent, que ce soit à Kiwanja, que ce soit à Rutshuru, à Walikale, à Masisi. Mais moi, on ne voit pas concrètement ce que la FPI appuie la population. Plutôt, nous voyons que la FPI donne de l'argent à ceux-là, aux gros poissons. La FPI donne seulement l'argent à ceux-là qui ont déjà plus de moyens, qui sont des politiques.
Oui, mais Bathier, vous avez suivi notre invité qui a évoqué l'idée de décentraliser les actions du FPI, parce que tout ne doit pas être fait au niveau de Kinshasa, et même au niveau de province, il faudrait qu'il y ait un regard du ministère provincial de l'industrie, question de pouvoir organiser la traçabilité, sinon ce sera de l'argent qui vont se volatiliser.
Oui, monsieur le journaliste, mais les choses, ce qui ça nous étonne, c'est surtout au niveau de la province. Moi, je parle d'un habitant de la province. On voit que la FPI existe dans les provinces, mais les petits peuples ne bénéficient pas de ce financement. Nous regrettons du fait que le financement est là, mais...
Voilà, merci beaucoup, Mathilde. Je comprends que c'est quand même un plaidoyer que vous formulez auprès du ministre de l'Industrie dans le nombre de stratégies qu'il devra formuler dans ces documents, qu'il tienne compte également de comment sortir de cette situation, les populations vivant dans le Congo profond. Merci beaucoup. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs qui sont branchés sur Radio Capi à ce moment ici présent.
Quelle est votre contribution à ce débat?
Merci beaucoup. Je crois que s'il y a eu des gouverneurs dans les temps, dans les passés, que j'ai admiré par rapport à la pression des actions sur le terrain, c'est vraiment notre invité d'aujourd'hui, Julien Paluku, pendant qu'il était au Nord Kivu. Je l'appréciais, mais je me pose la question par rapport au ministère qu'on l'a confié, par rapport à la philosophie de la majorité aujourd'hui au pouvoir, avec un président qui n'a pas la majorité absolue. Je me pose la question, pourquoi le Julien Paluku, aujourd'hui ministre de l'Industrie, qui venait d'être hier gouverneur, n'a pas fait de ses idées une poule d'attraction pour le Nord Kivu, pour qu'on puisse dire, en tout cas, voilà, ces idées étaient au niveau, dans un petit ensemble qui était la province du Nord Kivu, et aujourd'hui, lorsqu'on les confie à la nation, en tout cas, nous pouvons adhérer facilement parce que il va faire de grandes choses au niveau national. Donc, or, lorsque je regarde le Nord Kivu, ce sont des problèmes qui n'ont pas évolué. Là, la province est aujourd'hui en difficulté du point de vue industrie. Alors que nous avons aussi, à travers la République, les unités industrielles qui existaient depuis la Deuxième République, qui sont en faillite.
Est-ce que Ernest, qui existe aujourd'hui,
personne n'en parle. On peut inventer la roue alors que la manifeste de la télé avait bien planifié. Nous avons un document d'aménagement du territoire. L'industrie du Congo central, par exemple, à l'époque de Bazaïre. Mais comment on ne sait pas relire cette histoire? Parce que les gens avaient pensé comme le Julien Paluku aujourd'hui. Mais ces choses-là n'évoluent pas. On veut toujours amener quelque chose des forums pour consommer l'argent, alors que le moment venu, il n'y aura rien de spécial pour financer les projets qui existent. Et même les privés qui se donnent corps et âme pour remonter la pente et engager les compagnies congolais sont parfois découragés par les taxes multiples qu'on multiplie à leur charge. Et comment voulez-vous que les gens puissent adhérer facilement lorsque dans le passé, l'expérience est très mauvaise?
Merci beaucoup Ernest. Je crois que si vous avez eu le temps de faire un tour du côté de Goma, vous aurez vite remarqué qu'effectivement, dans les cadres de l'industrialisation, il y a aussi ces problèmes de celui qui s'engage à créer une entreprise. Comment doit-on évacuer les produits de ces industries? Alors, les routes aujourd'hui à Goma, c'est parmi les provinces où il y a quand même des avancées très significatives en ce qui concerne les infrastructures routières qui était déficitaire comme dans d'autres provinces autrefois, mais aujourd'hui, on peut quand même dire un mot là-dessus. Merci beaucoup, Ernest. Dany, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour.
Quelle est votre contribution à ces niveaux d'échange citoyens?
Déjà, je suis très content de l'initiative prise par le ministre, mais j'ai plutôt une question au ministre que j'aimerais poser parce que c'est pas la première fois. J'ai déjà eu une fois à faire une demande auprès de la FPI en tant que jeune entrepreneur, mais j'ai débuté un problème, c'est qu'on me demandait d'avoir une garantie hypothécaire que je n'avais pas. Je suis jeune, je vais débuter, j'ai des idées, j'ai des projets. D'ailleurs, même j'encourage même certains jeunes à la création des projets, à élaborer le projet pour avoir des financements, mais on est souvent buté à ce niveau-là. Alors j'aimerais bien avoir de la part du ministre la contribution par rapport aux jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de garantie pour commencer l'entreprise.
Voilà, parce que là, vous soulevez la question que je venais d'ailleurs d'évoquer tout à l'heure, la question des jeunes qui sont dans l'informel et qui n'ont pas, au fait, de numéro de registre de commerce aujourd'hui pour, au fait, démarrer une activité. Est-ce que ces jeunes peuvent bénéficier de certaines facilités auprès de cette entreprise pour obtenir ces crédits afin d'évoluer dans leur secteur? Il y a aussi des femmes qui évoluent dans le secteur informel qui aimeraient bien accéder à ces crédits autant. Merci beaucoup, Dany. Fabrice, vous êtes à Goma. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur Gier. Bonjour aussi à l'honorable monsieur le ministre. En fait, c'est l'un des meilleurs gouvernants qu'on a connu dans l'époque du deuxième, quoi, République, troisième République, si je peux le dire ainsi. Mais le problème est que j'ai trois préoccupations. Premièrement, il nous a dit que les jeunes doivent savoir que la vie n'est pas seulement à la politique. Malheureusement, c'est eux qui nous obligent de faire la politique. Pourquoi? Je vous confirme que parmi les gens qui vont avoir la grâce, permettez les termes, d'avoir le crédit, ce sera uniquement les gens de direct, malheureusement, les gens de son parti politique, parce que il va d'abord privilégier ceux qui sont des siens. Ça, c'est un. Deuxième chose, un jeune garçon qui termine ses études, il n'a d'accord. D'abord, l'expérience. Deuxième chose, il n'a pas même le fonds pour confirmer tout ce qui est comme document, pour avoir le document administratif d'avoir une entreprise. On va les obliger d'avoir tous ces documents-là. Si ça coûte, par exemple, 15 000 $, pour lui, c'est quelque chose qui sera impossible. Troisième des choses, c'est par rapport aussi au, à l'influence sur le terrain. Il a dit que non, ça sera, il y aura une commission, ça passera par ceci, par ceci, par cela. Tous ces gens-là vont demander ce qu'on appelle une opération retour. Alors, en voilà tout cela, on sera contre pour le Mbappé, ça sera vraiment impossible. Ça sera comme les autres ont dit, le fils de tel, le fils de tel, le fils de tel, parce qu'ils sont mieux placés, ils ont déjà les débits par rapport à tous les autres. C'est juste ça que j'avais comme contre.
Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez suivi cette deuxième série des auditeurs. Il y a Fabrice également, le tout dernier, Dany et Ernest, qui, même Bathier, qui chacun a donné quand même ses préoccupations. Comment vous réagissez?
Je voudrais d'abord saluer la qualité de ces échanges, comme vous les avez appelés citoyens, entre nous au ministère et le peuple congolais. Je voudrais d'abord assurer toute l'opinion que, au niveau des opérations dites opérations retour, cela n'existera plus. Parce que lorsque vous consultez le compte Twitter du ministère et bientôt le site web sera opérationnel, nous allons y placer les numéros de téléphone et les voies de contact pour tout dossier dont on va demander des commissions au niveau du FPI. Et j'ai organisé une réunion avec le Fonds de promotion de l'industrie pour dire clairement cela à tous les responsables. Qu'effectivement, les pratiques comme celles qui sont décriées maintenant, où on vous octroie un crédit de 1 million de dollars et on vous demande 30%, vous êtes obligé de laisser 300 000 dollars et donc vous n'encaissez que 700 000. Ces pratiques-là, nous avons dit, nous avons déjà un numéro de téléphone qui est en ligne. Si et on vous les demande, eh bien, nous allons déclencher le processus de révocation de tout ce qui vont s'illustrer dans ce genre de pratiques. Donc, il faut nous croire. Vous savez, la République démocratique du Congo a souffert et continue à souffrir d'une chose, c'est l'absence de la sanction. Et je crois qu'au niveau du ministère, parmi les grandes priorités, ce sera la réhabilitation de la sanction pour tous ceux qui vont s'illustrer dans ce genre de comportement. Monsieur Dany, qui a parlé de Lubumbashi, nous parle de la garantie hypothécaire. Effectivement, le président de la République est en négociation avec la BAD pour un fonds de garantie qui devra garantir effectivement les crédits qui sont octroyés aux jeunes et aux femmes. Donc il peut être apaisé sur cela, mais seulement je peux lui dire qu'il ne sera pas possible à chacun individuellement de présenter un projet. La grande recommandation que je peux faire, c'est de devoir vous associer. Vous êtes un groupe de penseurs, d'intellectuels de tel domaine, ingénieurs ceci, agronomes, vétérinaires, techniciens, sociologues, économistes. Vous vous associez et vous créez votre entreprise. Mmh. Et aujourd'hui, la création d'une entreprise au guichet unique coûte 80 dollars. Vous avez 80 dollars. Dans les 2-3 jours, vous avez votre entreprise créée et reconnue en République démocratique du Congo. Donc les histoires de dire il faut donner 15 000 dollars, il faut donner 10 000 pour créer une entreprise, ça c'est terminé. Au guichet unique, la création d'une entreprise c'est seulement 80 dollars pour tous les documents et pour toute personne étrangère comme locale. Donc les autres, lorsque je les ai suivis, que ce soit Mathieu, que ce soit Ernest, ils ont fait un plaidoyer. Ils pensent peut-être que ce sont des idées que nous sortons, mais qui ne seront pas matérialisés. Et j'ai déjà répondu à ça, j'ai dit, essayez un peu désormais de croire aussi à ce que les autorités disent. J'ai fait des choses lorsque j'étais gouverneur, il y a des choses que je n'ai pas pu faire. Je l'ai dit, je ne suis pas un homme parfait, mais quand vous m'évaluez, vous ne pouvez pas dire que j'ai fait à 1% ce que j'ai promis. Il y a un certain nombre de choses que j'ai pu réaliser, mais ici je ne fais pas le bilan de mon passage à la tête de la province du Nord Kivu. Ici j'annonce la vision du ministère et l'ambition que j'ai et les voies par lesquelles je vais passer pour atteindre cette ambition. Mmh. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de l'accompagnement du peuple congolais pour que tout ce que vous décriez là puisse remonter jusqu'au ministère. Parce que maintenant, il y avait des choses dont je n'étais pas revêtu de pouvoir lorsque j'avais un espace beaucoup plus réduit de pouvoir. Maintenant, je suis ministre au niveau national. Mon pouvoir s'étend sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo, sur les 145 territoires, sur une dizaine de villes, sur tous les, sur les 88 000 villages que compte la République démocratique du Congo. Mon pouvoir s'étend désormais sur tout cela. Il n'est plus réduit comme c'était à l'époque où j'étais localisé.
Oui, monsieur, monsieur le ministre, vous avez évoqué les cas de la BAD. Nous avons suivi tous l'actualité. Monsieur Matungulu, qui représentait la BAD, a été reçu par le Premier ministre et il a annoncé que l'appui de la BAD, l'appui budgétaire, voulais-je dire, sera conditionné par la bonne gouvernance. Là, nous sommes partis et pour votre projet des initiatives prises et pour atteindre l'objectif de la lutte contre la pauvreté, nous sommes partis pour vraiment des conditionnalités très drastiques qui pourraient prendre quand même, qui sera inscrite sur, sur une durée.
Oui, la bonne gouvernance, je crois que c'est le souci de toutes les autorités actuelles, qu'il s'agisse du président de la République, du Premier ministre, de l'Assemblée du gouvernement. Vous êtes en train de trouver que chaque vendredi, il y a réunion du Conseil des ministres pour qu'on mette en place effectivement des mécanismes qui nous permettent effectivement d'être évalués régulièrement et d'atteindre cette bonne gouvernance qui est souvent attendue par tout le monde. Je crois que la BAD a fait des annonces et nous met, nous, une pression pour qu'au niveau interne, nous puissions améliorer notre gouvernance. Et je ne vois pas quelqu'un qui peut refuser d'améliorer sa gouvernance pour bénéficier d'un fonds de garantie qui va être un appui important à l'octroi de crédit aux jeunes et aux femmes. Mais aux problèmes spécifiquement locaux, il y aura aussi des solutions locales. Donc pour tous ces jeunes-là qui ne vont pas avoir accès facilement aux garanties hypothécaires, alors qu'ils ont créé des entreprises en bonne et due forme, il y aura des solutions locales et tout cela est en train de faire l'objet effectivement de réflexions au niveau du ministère pour dire des bons projets qui sont élaborés par les jeunes, mais malheureusement qui ne disposent pas de garanties hypothécaires, quelle pourra être la stratégie au niveau du ministère pour permettre que ces jeunes aient aussi bénéficié du financement. C'est des réflexions déjà qui sont en interne et peut-être le moment venu, nous pourrions les rendre publiques pour rassurer tous ces jeunes gens qui sont disséminés à travers la République, que désormais ils peuvent élaborer des projets et bénéficier des projets de financement, mais pourvu qu'eux aussi deviennent des bons gestionnaires. Quand on va commencer à octroyer des crédits aux jeunes, ça sera un défi qui leur sera lancé, parce qu'il y en a, il y en a parmi eux, effectivement, qui ne sera pas en mesure de créer ces entreprises-là ou de rembourser, bien que les taux soient rabattis à 4%. Et donc là, ça sera à mon tour, moi aussi, de commencer à évaluer ceux qui ont bénéficié des crédits du Fonds de promotion de l'industrie.
Voilà, on va, disons, accorder la parole à une dernière série des auditeurs qui aimeraient bien échanger avec nous. Gaston est à Kinshasa et Estras à Bounia. Et Gaston, vous avez la parole.
Bonjour, JR. Je salue aussi M. Julien. Je suis vraiment, je ne sais plus comprendre la manière dont notre pays est en train de fonctionner dans un premier temps. J'ai l'impression comme si chacun agit en solo. Hein, le président se présente, il vous donne sa vision, il vous donne ses projets. Un ministre se présente, il vous donne sa vision, il vous donne ses projets.
Mais Gaston, si vous aviez été au début de cette émission, notre invité, le ministre de l'Industrie, a évoqué le pilier 7 de l'action du gouvernement, le programme du gouvernement, qui constitue aujourd'hui les plans de travail également de ces ministères de l'Industrie. Donc ce n'est pas en solo que le travail est fait d'une part ou d'une autre.
Oui, mais si je dis ainsi, vous savez, il y a toute une politique de la nation, du gouvernement qui est définie en concertation avec le président de la République qui devrait être concrétisée dans le cadre du budget que nous attendons jusque-là. Je sais aussi que même s'il y a des choses à faire dans le cadre de ces ministères, il faut que ça soit inscrit.
Alors pour vous, quels sont les défis majeurs à relever dans le secteur de l'industrie? Allez droit au but.
Bon, comme je vous l'ai dit, on en a eu hein, plusieurs projets qui sont passés. C'est d'abord dire à M. Julien qui est là qu'il puisse faire un état des lieux. Qu'est-ce qui a fait que les projets antérieurs ne puissent pas marcher? Parce qu'on en a entendu assez. On en a vu des financements, mais jusque-là, on ne sait pas sentir un changement.
Et vous, et pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché?
Bon, premièrement, c'est au niveau de la personne, hein, les ressources humaines, les gens qui sont censés concrétiser ou appliquer ce qui est prévu. Au Congo, on a pu constater qu'il y a plus les intérêts particuliers qui priment sur les objectifs à caractère social. Cet aspect-là, vraiment, il faut tenir à tous les niveaux, que ce soit au niveau du ministère et au niveau de là-bas, de ceux qui sont en bas, de ceux qui sont censés exécuter ces projets, qu'on veille à ce que ce qui a été arrêté puisse... s'appliquer. Et puis, il y a aussi un problème de gestion, hein, sur l'utilisation
de ces fonds. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Gaston. Merci beaucoup, Gaston. Esdras, vous êtes à Bounia. Bonjour. Voilà, je crois que Esdras, la ligne Esdras n'est plus en ligne. Il est temps de rappeler que nous parlons du ministère de l'Industrie et qui a annoncé la révision à la baisse du taux d'intérêt pour tout projet d'investissement pour les Congolais par le FPI. Et le ministre a encore affirmé que ces taux révisés dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités passent de 18 voire 20 à 6%, soit une variation très significative de près de 30% à la baisse. Par ailleurs, pour tout projet d'entreprise des jeunes et des femmes, les taux d'intérêt du FPI est de 4%, a souligné Julien Paloukou. Alors certains observateurs estiment que cette décision relance les débats sur les défis majeurs à relever dans le secteur de l'industrie en RDC. Alors comment vous réagissez? Nous revenons à vous, à notre invité, Monsieur le Ministre. Vous avez suivi l'ensemble des compatriotes et en conclusion, on peut dire quand même qu'effectivement, il y a pas mal de défis et tous ces défis sont consignés aujourd'hui dans ce document stratégique que vous proposez et qui, dans les prochains jours, sera mise à la disposition de la population afin de se faire une idée très claire sur les résultats attendus.
Oui, Monsieur JR, je pense que le peuple congolais doit savoir que tous les pays du monde se sont développés par des idées nouvelles, par des idées qui sortent des têtes des gens. On ne peut pas se développer sans qu'il y ait des idées qui construisent l'avenir, qui construisent les rêves. Et je crois qu'au ministère, c'est ce qu'on est en train de faire. Comme M. Gaston a dit que chacun évolue en solo. En fait, la manière de fonctionner de l'appareil de l'État, comme notre constitution l'est définie, en fait, le président donne la vision, le gouvernement traduit la vision dans un programme qu'on appelle programme quinquennal, et il a été défendu par le premier ministre à l'Assemblée nationale, et chaque ministère se sert de ce programme pour voir quel est le pilier qui intéresse son secteur, pour devoir participer à la création des richesses, à la réduction de la pauvreté, comme cela est dit. Donc nous n'évoluons pas en solo au niveau du ministère, mais nous prenons ce qui cadre avec notre secteur pour le traduire maintenant en indicateurs objectivement vérifiables. D'ici 5 ans, qu'on peut évaluer et dire voici les résultats auxquels on est arrivé. Il est vrai que on a perdu beaucoup d'espoir, le peuple congolais ne sait plus travailler, tout le monde croit qu'il n'y a rien, mais ce que je demande aux jeunes, aux femmes, aux intellectuels, c'est de saisir cette occasion qui est offerte par les ministères de l'Industrie de créer des entreprises. Parce que déjà, il y a des fonds qui vont financer les projets qui vont participer à l'économie inclusive dans ces pays. Beaucoup de fruits pourrissent partout là-bas, que ce soit les ananas, que ce soit les oranges, que ce soit tout ce que nous connaissons. Ça pourrit partout. Alors qu'il y a des unités modulaires qui peuvent transformer ces produits en jus. Aujourd'hui, nous importons pour 1 milliard de dollars l'an pour les produits que nous pouvons transformer localement en République démocratique du Congo. Le ministère vous dit, c'est l'occasion, au lieu d'importer pour 1 milliard de dollars l'an, ces 1 milliard devront rester à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous aurons participé à l'accroissement de notre produit intérieur brut. Ça ne sera plus une question de théorie, mais cette fois-ci, chacun pourra savoir que le produit intérieur brut est passé de 40 milliards, peut-être à 60 milliards, à 100 milliards. Et lorsqu'on a un produit de 100 milliards, il ne sera pas difficile d'avoir un budget de 30 milliards, parce que la plupart des cas, les budgets sont évalués à entre 20 et 30% du produit intérieur brut. Donc c'est une politique qu'on est en train de mettre en place pour susciter des espoirs perdus au sein du peuple congolais, et qu'ensemble, nous puissions nous focaliser sur les 5 ans à venir et dire qu'est-ce qui sera fait chaque année et quels résultats nous pourrions atteindre. Et je mets le peuple congolais au défi que demain après demain, il y a des choses qui seront faites au niveau du ministère de l'Industrie, et les gens seront très satisfaits.
Alors, vous avez lancé les travaux aujourd'hui. Ces travaux vont se tenir pendant combien de jours?
Nous avons lancé les travaux de validation technique du document de la politique et des stratégies industrielles. C'est un document qui trace effectivement la politique industrielle. C'est pour 48 heures. Ça a déjà été fait par le Bureau national d'études et de planification industrielle. Mais nous avons cherché à avoir l'expertise de tous les experts d'autres ministères, les plans, les finances, tous les 48 ministères, pour que chacun apporte sa contribution dans l'élaboration de cette politique industrielle. Parce que comme je l'ai dit au début, notre ministère est transversal. Il ne finance pas que les actions qui relèvent de ce ministère in situ personae. Mais non, il finance les activités, les secteurs qui relèvent des secteurs transversaux qui peuvent se retrouver dans d'autres ministères.
Julien Paluku Kaungia, ministre de l'Industrie, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie et je remercie amplement le peuple congolais pour sa participation.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On se retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.